France Culture.
Et les midis continuent avec tout à l'heure à 13h l'invité du jour, le réalisateur Virgile Vernier. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Devons-nous acter la disparition du journal papier? Alors c'est la thèse de Guillaume Pinson, spécialiste de la culture médiatique, qui vient de faire paraître un ouvrage simplement intitulé « L'adieu au journal ». Mais en perdant le journal, c'est tout un rapport au monde qui change et c'est le dossier du point culture du jour. Guillaume Pinson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à l'Université de Laval et vous venez de faire paraître aux éditions du CNRS l'adieu au journal. Alors, à quoi dit-on adieu exactement? Est-ce qu'on dit adieu au journal papier, à une forme d'autorité, à un rythme de lecture ou même à une idée de la vérité publique?
Eh bien, on dit adieu à un peu tout ça, effectivement. On dit adieu au journal dans ce qu'il a été... environ sur un siècle et demi, dans l'importance qu'il a joué dans nos sociétés. On dit adieu à ça, à sa présence, à son omniprésence, qui a commencé donc à se défaire, en gros, à partir des années 1990, début 2000. Et donc, on dit adieu à une certaine culture du journal qui a été, c'est un peu l'hypothèse que je pose dans le livre, un objet absolument central, essentiel sur notre manière de voir le monde, de l'appréhender, de le concevoir, et donc aussi d'une certaine importance qu'ont joué les journalistes historiquement à travers le temps, dans ce siècle et demi, et ce qui est en train d'être actuellement, depuis quelques temps, vous le savez, profondément bouleversé.
Mais qu'est-ce qu'on perd en fait quand le journal disparaît? Moi j'ai eu l'impression qu'on perdait aussi des gestes, une façon de tenir un objet, mais aussi un rythme de lecture. Le journal c'était un quotidien ou un hebdo.
Oui c'est ça, on perd une culture du geste, on perd une manière de considérer le temps, d'avoir un certain rapport au temps, on perd une sorte de respiration, une rythmique, il y avait une périodicité qui était liée au journal. Je pense que mon hypothèse, c'est que pendant en gros un siècle et demi, cette périodicité était centrale dans nos vies. Même à l'époque de la télévision, je pense que le journal était vraiment un emblème culturel et social qui nous permettait de prendre la mesure du monde. Et donc, oui, on perd des gestes, on perd un certain rapport, je crois. Tout ça est plutôt des formes de transformation que des pertes réellement, mais des évolutions historiques. Mais on perd donc un rapport au temps, un rapport aux émotions aussi, de nouvelles manières de ressentir le monde. C'est ça, c'est des choses, c'est assez profond, c'est des transformations assez profondes qui se jouent sur nos manières d'être dans le réel, de voir le monde, de le ressentir, de l'entendre même. Voilà.
Ah oui, alors ça c'est très intéressant, vous parlez dans le livre que le journal était aussi un moyen, paradoxalement, d'enregistrer les sons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah oui, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, le journal est une grande machine à représenter le monde. C'est la grande innovation du journal du 19e siècle, c'est-à-dire représenter, le raconter, le mettre en récit. Et donc, dans la réalité du monde, eh bien, il y a une culture sonore, il y a des sons, il y a des paroles. Donc, de manière tout à fait caractéristique, on invente au 19e siècle, par exemple, l'interview. Donc, cette idée qu'on va capter la parole vive, donc qui a été prononcée par un individu, on va la capter, la retranscrire dans le journal. Et donc, le journal va se mettre à être, ce que je propose dans l'ouvrage, une sorte de machine à enregistrer les sons avant l'invention du phonographe par Edison en 1877. Donc, le journal a été la grande machine à enregistrer les sons du réel, à les représenter. Et je pose même que c'est probablement la modernité médiatique, le journal dans sa modernité, qui a donné l'idée à des inventeurs comme Edison qu'il serait intéressant d'inventer une machine qui pourrait pour le coup vraiment enregistrer pour vrai les sons.
Alors, vous l'avez dit, on perd pas tout. C'est-à-dire, on dit adieu au journal, mais on accueille d'autres formes. Aujourd'hui, quels objets ou dispositifs remplacent concrètement le journal dans la vie des gens?
Ouais, c'est-à-dire que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est on est dans un effet de cumulation, je crois. Je pense que c'est une des grandes différences avec la culture du journal à laquelle on est en train de dire adieu, c'est-à-dire un rapport confiant, unique, qui passe, enfin relativement unique, qui est quand même centralisé par la fenêtre du journal. Ça, c'était le propre de l'ère médiatique sur laquelle je reviens dans mon ouvrage. Et je crois que là, on a des effets de cumulation, de consommation. À mon avis, là, justement, j'explore un peu cette idée d'une relation, dans le livre, une relation un peu frénétique aux objets, un peu déboussolée du fait de l'accumulation des plateformes, bon, des outils qui nous permettent d'appréhender le réel et de communiquer. Mais je pense qu'il y a il y a un travail qui est intéressant en ce moment qui se fait sur l'hybridation, ces nouvelles écritures. Je pense qu'on est en train de bricoler des nouvelles sources d'informations. actuellement qui cumulent images, sons, tout ce qu'on peut utiliser comme et même l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va bricoler des choses avec ça. Ça nous fait peur aujourd'hui, mais je pense qu'on va inventer des nouvelles manières de communiquer. Un peu, c'est ce que je pose aussi dans l'ouvrage, un peu comme au 19e siècle, les hommes et les femmes de l'ère médiatique ont dû inventer le journal. Hein. Ils étaient aussi pris de désarroi face à la vague des journaux qui les submergeaient. Et ben, ils ont bricolé des choses, ont inventé des choses. Je pense qu'on est actuellement dans une nouvelle phase de l'histoire où un peu comme eux au 19e siècle, ben, on invente, on bricole nos nouvelles manières de communiquer.
Et tout ce qu'on bricole, tous ces remplaçants au journal, est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions que le journal ou bien est-ce carrément un autre système avec d'autres valeurs ?
Ben, écoutez, moi, c'est difficile pour répondre précisément là-dessus parce qu'on est vraiment on a le nez dans le guidon actuellement. Donc, je pense que c'est plutôt le fait ce qui se passe et qu'on est dans un système où on conserve une part du système journalistique, médiatique ancien, mais on le fait cohabiter avec des formes de communication, de mise en réseau et d'expression des individus qui, je crois, complique énormément le système dans lequel on est aujourd'hui plongé, qui n'était pas celui dans lequel on était jusqu'à, en fait, au début des années 2000, probablement. Donc, je crois que c'est cette collision, cette rencontre entre système d'information et système de communication chez les uns et les autres, hein, notamment par les réseaux sociaux, qui fait que, ben, on est un petit peu à la recherche de nouvelles formules et puis que ça nous inquiète, hein, évidemment.
Mais est-ce que ce changement de médium change le fond ? Je veux dire, est-ce que la bascule vers le flux, finalement, elle transforme aussi la narration journalistique ?
Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut poser que, évidemment, le médium, c'est le message. Donc, la transformation actuelle des outils, la facilité d'édition, de circulation, les enjeux de viralité, de reprise, de copier-coller, d'imitation, tout ça font que les contenus sont en train de changer. On raconte plus le monde de la même manière. Je pense qu'on cumule des expériences, on est dans des formes d'hybridité qui sont le propre de ces nouveaux outils. Donc, je pose aussi dans l'ouvrage qu'on ne peut pas imaginer qu'on va vivre de la même manière dans cette ère numérique que ce qu'on a vécu avec l'ère médiatique. Je pense qu'il faut admettre qu'on ne pourra pas. C'est un peu à ça qu'il faut dire adieu. Il va falloir inventer quelque chose de neuf, dire adieu à l'ancien système, et puis bon, ben, voilà, inventer ce qui doit venir après.
Dernière question, Guillaume Pinson. On l'a dit au tout début, le journal, c'était aussi une certaine idée de la vérité publique. Comment faire sans le journal pour que le journalisme reste une force publique ?
Ah ben, c'est une bonne question. Je suis pas certain qu'on ait beaucoup de réponses encore là-dessus parce qu'on est en train de rechercher. Je pense qu'il faut admettre. Enfin, moi, je vais plus à une perspective d'historien là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut admettre qu'il y a un certain journaliste qui s'est inventé au 19e siècle et ça, il faut lui dire adieu. Ça, je pense qu'on arrive à un moment où les choses sont trop en train de changer et que cette espèce de confiance qu'on avait dans le journalisme, au sens où finalement c'était la manière normale d'appréhender le monde, je pense qu'il faut qu'on admette que c'est une phase de l'histoire, c'est pas éternel. Mais ça veut dire que, c'est peut-être intéressant, ça veut dire que justement, on est à un moment où on doit inventer quelque chose de neuf, où je crois les journalistes vont avoir leur rôle à jouer, voilà, en utilisant tout ce qui est à leur disposition, mais en admettant qu'il va falloir combiner ça avec d'autres formes d'expérience et de représentation. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter là au quotidien, vous et moi, un peu tout le monde, mais ça reste à poser, à voir comment ça va évoluer.
Bien, merci beaucoup Guillaume Pinson. Je rappelle que votre ouvrage « L'adieu au journal » vient de paraître aux éditions du CNRS. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, deux fragments de la tapisserie de Bayeux viennent d'être restitués à la France par l'Allemagne.
Oui, ces deux morceaux de toile de lin de quelques centimètres à peine avaient été prélevés sur l'œuvre en 1941 par Karl Schlabo, un archéologue allemand, mandaté par le régime nazi pour étudier la tapisserie. Il avait conservé dans ses archives personnelles ces fragments, retrouvés en 2023. La tapisserie de Bayeux doit être exposée de manière exceptionnelle au British Museum en septembre prochain, malgré les vives protestations du monde de l'art. Et la dernière en date, celle du peintre David Hockney, qui vient de déclarer que le transfert de la tapisserie était une folie au vu de sa fragilité.
Et pour finir, Marie, le CNL a un nouveau directeur.
C'est Olivier Lombardi qui vient d'être nommé directeur général du Centre National du Livre. Il remplace ainsi Pascal Perrault qui dirigeait l'institution depuis 2021. Olivier Lombardi a une grande expérience au sein d'institutions culturelles prestigieuses comme l'INA, l'Opéra National de Bordeaux ou encore l'Opéra Comique. Pour rappel, le CNL a été créé en 1946 et a pour mission de soutenir le monde du livre en France en encourageant la diffusion et la production littéraire à travers des subventions, des bourses, des enquêtes ou en organisant des événements événements comme par exemple le Festival du Livre de Paris qui aura lieu cette année du 17 au 19 avril au Grand Palais.
Merci Marie, on se retrouve lundi.
À lundi, bon week-end.
Bon week-end pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.